Chapitre 4. Mardi 8 décembre, le matin. Eric Maria Bark revient de l'hôpital Karolinska, où il a rencontré l'inspecteur Yona Lina. Il l'aime bien, même si l'inspecteur a tenté de lui faire trahir sa promesse de ne plus jamais hypnotiser. Peut-être était-ce l'inquiétude franche et sincère de l'inspecteur pour la grande sœur qui le rendait si sympathique. Quelqu'un était probablement à ses trousses en ce moment même. Eric pénètre dans la chambre et observe sa femme Simone dans le lit. Il est très fatigué. Les comprimés ont commencé à faire effet. Ses yeux sont lourds et irrités. Le sommeil est déjà en route. La lumière s'étend sur Simone comme une plaque de verre rayée. Il s'est écoulé presque une nuit entière depuis qu'il l'a laissée pour aller examiner le garçon blessé. Elle a pris toute la place. Son corps est lourd. La couverture gît à ses pieds. Elle est allongée sur le ventre, sa chemise de nuit retroussée autour de la taille. Ses bras et ses épaules ont la chair de poule. Eric la recouvre délicatement. Elle murmure quelque chose et se pelotonne. Il s'assoit et lui caresse la cheville, observe les orteils réagir, bouger doucement. « Je vais prendre une douche, » dit-il en se penchant en arrière.
« C'était quoi le nom du policier ?»
bredouille-t-elle. Mais avant même de pouvoir répondre, il se retrouve dans le parc Observatory London. Il creuse le sable de l'aire de jeu et trouve une pierre jaune, ronde comme un œuf, grosse comme une citrouille. Il gratte avec les mains et devine un relief sur le côté, une rangée de dents pointues. En retournant la lourde pierre, il voit que c'est le crâne d'un dinosaure.
« Tu fais chier !» crie Simone.
Il sursaute et comprend qu'il s'est endormi et a commencé à rêver. Les puissants comprimés l'ont assommé au milieu de la conversation. Il tente un sourire, mais rencontre le regard glacial de Simone.
« Sixon, qu'est-ce qu'il y a ?»«
C'est reparti, » demande-t-elle.
« Quoi ?»«
Quoi ?» répète-t-elle agacée. « Qui est Daniela ?»«
Daniela ?»«
Tu avais juré. C'était une promesse, Eric, » dit-elle d'une voix bouleversée. « Je te faisais confiance, j'ai été bête au point de te faire confiance. »«
De quoi tu parles ? Daniela Richards est une collègue de Karolinska. Pourquoi tu me parles d'elle ?
Ne me mens pas !»«
Ça commence à frôler le ridicule, » dit-il en souriant.
« Tu trouves ça drôle ? » demande-t-elle. « Parfois je me disais, j'ai même cru que je pourrais oublier ce qui s'est passé. »
Eric somnole quelques secondes, mais continue d'entendre ce qu'elle dit.
« Il vaudrait peut-être mieux qu'on se sépare, » chuchote Simone.
« Il ne s'est rien passé entre Daniela et moi. »«
Ça n'a pas vraiment d'importance, » dit-elle d'un ton là.
« Vraiment ? Ça n'a pas d'importance ? Tu veux te séparer à cause d'un truc que j'ai fait il y a 10 ans ?»«
Un truc ?
J'étais ivre et
je ne veux pas l'entendre, je sais tout, je... Et puis merde ! Je ne veux pas tenir ce rôle. » Je ne suis pas jalouse, mais je suis quelqu'un de loyal, et j'exige de la loyauté en retour.
Je ne t'ai plus jamais trahi, et je ne le...
Pourquoi est-ce que tu me le prouves pas? C'est ça qu'il me faut.
Il faut simplement que tu me fasses confiance, dit-il.
Oui, soupire-t-elle, en quittant la chambre avec son oreiller et la couette.
Il respire lourdement. Sait qu'il devrait la suivre, ne pas renoncer comme ça. Il devrait la ramener dans le lit ou s'allonger par terre à côté du canapé-lit dans la chambre d'amis, mais à ce stade, le sommeil est le plus fort. Il n'arrive plus à résister. Il s'enfonce dans le lit, sent la dopamine des comprimés le submerger, l'agréable délassement envahir son visage, ses orteils et le bout de ses doigts. Le lourd sommeil chimique enveloppe sa conscience tel un nuage cotonneux. Deux heures plus tard, Eric ouvre lentement les yeux. Instantanément, les images de la nuit se mettent à défiler. Les reproches de Simone, le garçon étendu, les marques noires de centaines de coups de couteau sur le corps livide. Les plaies profondes sur la nuque, la gorge et la poitrine. Eric pense à l'inspecteur visiblement convaincu que l'auteur du crime voulait assassiner toute la famille. D'abord le père, puis la mère, le fils et la fille. Le téléphone sonne sur la table de chevet. Eric se lève,
mais au lieu de répondre, il tire les rideaux et plisse les yeux en direction de la façade opposée. Il attend un moment et tente de retrouver ses esprits. Les traces de buée sur les vitres se dessinent clairement dans le soleil du matin. Simone est déjà partie à la galerie. Il ne comprend pas sa réaction. Pourquoi elle lui a parlé de Daniela? Il se demande s'il ne s'agit pas de tout autre chose. Peut-être les comprimés. Il est bien conscient qu'il se trouve très près d'une sérieuse dépendance. Mais il fallait qu'il dorme. Toutes ces gardes de nuit ont déréglé son sommeil. Sans les comprimés, il s'écroulerait, pense-t-il, en tendant la main vers le réveil qu'il fait tomber par terre. La sonnerie du téléphone cesse pour reprendre presque aussitôt. Il envisage d'aller rejoindre son fils Benjamin et de s'allonger près de lui, le réveiller tout doucement, lui demander s'il a fait de beaux rêves. Il prend le téléphone sur la table de chevet et répond. Eric Maria Bark.
C'est Daniela Richards.
Tu es encore en neurologie? Quelle heure est-il?
8h15. Je commence à être un peu fatigué.
Rentre chez toi.
Sûrement pas,
dit Daniela d'un ton calme.
Il faut que tu reviennes. L'inspecteur est en route. Il semble encore plus convaincu que le criminel est à la poursuite de la sœur aînée. Il dit qu'il doit absolument parler au garçon.
Eric ressent soudain une pesanteur obscure derrière les yeux. Ce n'est sans doute pas une bonne idée, vu le...
Mais la sœur, je sens que je vais bientôt donner à l'inspecteur le feu vert pour interroger Joseph.
Si tu estimes que le patient peut le supporter...
Le supporter? Il ne le supportera pas. C'est bien trop prématuré, son état est... Il va apprendre ce qui est arrivé à toute sa famille sans y avoir été préparé, sans avoir eu le temps de se construire une défense. Il pourrait devenir psychotique, il...
À toi de voir, l'interrompt Eric.
D'un côté, je ne veux pas laisser entrer la police, mais je ne peux pas non plus rester là à attendre. Il n'y a aucun doute sur le fait que sa sœur est en danger.
Oui, mais...
Un meurtrier cherche la sœur aînée,
l'interrompt Daniela d'une voix forte. Probablement.
Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ça me perturbe à ce point. Peut-être parce que ce n'est pas trop tard, qu'on peut encore faire quelque chose. Ce n'est pas souvent le cas, mais cette fois, on pourrait sauver une fille avant qu'elle ne soit...
Qu'est-ce que tu veux, au juste?
Il faut que tu reviennes ici pour faire ce que tu sais faire.
Je peux parler au garçon de ce qui s'est passé une fois qu'il ira mieux.
Tu dois venir l'hypnotiser,
dit-elle d'une voix grave. Non, pas ça.
C'est la seule solution.
Je ne peux pas.
Mais personne ne peut le faire aussi bien que toi.
Je n'ai même pas l'autorisation d'exercer l'hypnose à Karolinska.
Je peux m'en occuper avant que tu arrives.
Mais j'ai promis de ne plus jamais hypnotiser.
Tu ne peux pas juste venir.
Il y a un court silence. Puis Eric demande « Est-ce qu'il est conscient ?»
Il le sera bientôt.
Il entend sa propre respiration dans le téléphone.
Si tu ne l'hypnotises pas, je vais autoriser l'accès à la police.
Et elle raccroche. Eric reste immobile, le combiné dans sa main tremblante. La pesanteur qu'il ressent derrière les yeux se diffuse maintenant vers le cerveau. Il ouvre le tiroir de la table de chevet. La boîte au perroquet n'y est pas. Il a dû l'oublier dans la voiture. Il traverse les pièces pour réveiller Benjamin. L'appartement baigne dans la lumière du soleil. Le garçon dort la bouche ouverte. Son visage est pâle et il semble exténué malgré une nuit complète de sommeil. Benny ? Benjamin ouvre des yeux ensommeillés et le regarde comme s'il était un parfait étranger avant de lui faire un sourire qui n'a pas changé depuis sa naissance. C'est mardi. Il est l'heure de se réveiller. Benjamin se redresse en bâillant, se gratte les cheveux, puis regarde le téléphone qui lui pend autour du cou. C'est la première chose qu'il fait chaque matin, vérifier qu'il n'a pas raté de message au cours de la nuit. Eric sort le sac Puma jaune, qui contient la solution concentrée de desmopressine, l'antiseptique, les aiguilles stériles, les compresses, la bande adhésive et les analgésiques. Maintenant, ou au moment du petit déjeuner? Benjamin hausse les épaules. Peu importe. Eric badigeonne rapidement le bras frêle de son fils, le tourne vers la lumière de la fenêtre, sent la mollesse du muscle, tape la seringue et guide délicatement l'aiguille sous la peau. Pendant que la seringue se vide lentement de son contenu, Benjamin tapote son portable avec sa main libre.
« Shit, je n'ai presque plus de batterie.
dit-il en posant le téléphone, tandis qu'Eric maintient une compresse sur son bras pour stopper le saignement. Benjamin doit rester dans cette position un bon moment avant qu'Eric ne fixe la compresse sur son bras avec de l'adhésif chirurgical. Il bouge délicatement les jambes de son fils en avant et en arrière, puis fait jouer les articulations de ses genoux et termine en massant les pieds et les orteils.
« Tu te sens comment ?» demande-t-il sans détacher les yeux du visage de son fils.
Benjamin grimace.
« Comme d'hab.
Tu veux un analgésique ?» Benjamin secoue la tête et brusquement Eric pense au témoin inconscient, le garçon aux multiples blessures. L'assassin cherche peut-être sa sœur en ce moment même.
« Papa, qu'est-ce qu'il y a ?»
demande Benjamin avec hésitation. Eric croise son regard.
« Je te conduis à l'école si tu veux.
Pourquoi ?»
Le trafic des heures de pointe s'écoule peu à peu dans un grondement monotone. Assis à côté de son père, Benjamin se laisse bercer par les mouvements saccadés de la voiture. Il pousse un grand soupir et sent encore en lui la douce chaleur du sommeil nocturne. Il pense au fait que son père est pressé, mais prend tout de même le temps de le conduire à l'école. Benjamin sourit pour lui-même. « Ça a toujours été comme ça, » se dit-il. « Quand papa vit des moments difficiles à l'hôpital, il est encore plus inquiet qu'il m'arrive quelque chose. »
« On a réussi à oublier les patins, » dit tout à coup Eric.
« C'est vrai. »
« On fait demi-tour. »
« Non, c'est pas la peine. C'est pas grave. »
Eric tente de changer de voie, mais une voiture l'empêche de passer. Obligé de se rabattre, il manque de peu de rentrer dans un camion poubelle.
On a le temps de faire demi-tour
et... Oublie les patins, je m'en fous,
dit Benjamin en élevant la voix. Eric lui adresse un regard étonné.
Je pensais que tu aimais patiner.
Benjamin ne sait plus quoi répondre. Il déteste qu'on l'interroge. Il ne veut pas se mettre à mentir.
Tu n'aimes pas ?
Demande Eric.
Quoi ?
Tu n'aimes pas faire du patin ?
Pourquoi j'aimerais ?
Marmonne-t-il. On t'en a acheté des tout neufs,
c'est pas la folie non plus.
L'interrompt Benjamin, là.
Alors je ne retourne pas te les chercher.
Benjamin se contente d'un soupir pour toute réponse.
Donc les patins c'est ennuyeux, dit Eric. Les échecs c'est ennuyeux, les jeux vidéo c'est ennuyeux. Qu'est-ce qui t'amuse en fin de compte?
Je sais pas.
Rien?
Si.
Regarder des films?
Quelquefois.
Quelquefois? Dit Eric en souriant.
Oui.
« Toi qui es capable de t'enfiler 3 ou 4 films en une soirée ?»
dit Eric d'un ton enjoué.
« Et alors ?»«
Non, rien. C'est juste qu'on pourrait se demander combien de films tu regarderais si tu aimais vraiment le cinéma, si tu adorais le cinéma. »«
Arrête !»«
Tu aurais peut-être des doubles écrans et tu passerais les films en accéléré pour optimiser ton temps. »
Benjamin ne peut pas s'empêcher de sourire quand son père le taquine. Soudain, ils entendent une détonation sourde. Une étoile bleu pâle illumine le ciel, laissant une cascade de fumée dans son sillage.
« Drôle d'heure pour un feu d'artifice, »
dit Benjamin.
« Quoi ?»«
Regarde, »
dit-il, le doigt pointé. Une étoile de fumée flotte en suspens dans le ciel. Sans trop savoir pourquoi, Benjamin imagine Aïda en face de lui, et son ventre se serre. Une chaleur se diffuse en lui. Vendredi dernier, ils étaient collés l'un à l'autre dans le canapé du petit salon d'Aïda à Sundbyberg. Ils regardaient le film Elephant, pendant que le petit frère d'Aïda jouait par terre avec des cartes Pokémon en parlant tout seul. Tandis qu'Eric gare la voiture devant la cour d'école, Benjamin voit Aïda. Elle l'attend de l'autre côté de la grille. En l'apercevant, elle lui fait signe de la main. Benjamin prend son sac et s'empresse de dire
« Au revoir papa !» Merci de m'avoir déposé. Je t'aime,
dit Eric à voix basse. Benjamin hoche la tête et s'éloigne.
On regarde un film ce soir ?
Demande Eric.
Je sais pas,
répond-il, la tête baissée.
C'est Aïda là-bas ?
Oui,
répond Benjamin d'une voix à peine audible.
J'aimerais bien lui dire bonjour, dit Eric en sortant de la voiture.
Pourquoi faire ?
Il se dirige vers Aïda. Benjamin ose à peine la regarder. Il se sent comme un gamin. Il ne faut pas qu'elle pense qu'il veut l'approbation de son père. Il s'en fout de ce que pense son père. Aïda, a l'air nerveuse. Son regard navigue entre Eric et lui. Avant même que Benjamin ait le temps de donner une explication, Eric tend la main et la salue.
« Bonjour. »
Aïda lui serre la main avec méfiance. Benjamin note que son père est décontenancé par ses tatouages. Elle a une croix gammée tatouée sur le cou et à côté une petite étoile de David. Elle a les yeux peints en noir, les cheveux réunis en deux tresses enfantines. Elle porte une veste en cuir noir et une jupe bouffante en tulle sombre.
« Je suis Eric, le papa de Benjamin. »
« Aïda. » Sa voix est haut perchée et faible. Benjamin rougit, regarde nerveusement Aïda, puis fixe le sol.
« Tu es une nazie ?» demande Eric.
« Et vous ?»«
Non. »«
Moi non plus, »
dit-elle en le toisant brièvement.
« Alors pourquoi est-ce que tu as une... »«
Pour rien. Je ne suis rien, je suis juste. »
Embarrassé, Benjamin intervient. Son cœur cogne dans sa poitrine.
« Elle a fréquenté des gens il y a quelques années, » dit-il d'une voix forte. « Mais elle a trouvé que c'était des idiots et... »«
Tu n'as pas besoin de lui expliquer, » s'agace Aïda. Il reste muet un bref instant.
« Je trouve juste que c'est courageux d'assumer ses erreurs, » dit-il ensuite.
« Oui, » dit Eric, « mais je considère que de ne pas l'enlever démontre un manque de discernement. »
« Ça suffit maintenant !» crie Benjamin. « Tu ne sais rien d'elle !»
Aïda tourne les talons puis s'éloigne. Benjamin s'empresse de la rattraper.
« Pardon » allait-il. « Mon père me fout tellement la honte !»«
Mais il a raison, non ?»«
Non !»
répond Benjamin d'une petite voix.
« Peut-être que si »
dit-elle en souriant à demi. Puis, elle lui prend la main.